France Culture, il est 12h31. Le journal, Thomas Cluzel, bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à toutes et à tous. Les Algériens se réveillent aujourd'hui avec une saveur de victoire mêlée avec un goût d'incertitude après que le président Abdelaziz Bouteflika a annoncé hier soir qu'il renonçait à briguer un cinquième mandat. Les interrogations restent nombreuses, à commencer par le choix des hommes qui décideront de l'avenir du pays.
Au Venezuela, l'opposant Juan Guaido appelle de nouveau à manifester aujourd'hui au cinquième jour de la gigantesque panne de courant qui paralyse le pays, confronté par ailleurs à de graves difficultés alimentaires.
L'alliance franco-japonaise Renault Nissan a pris ce matin un nouveau départ sous le regard lointain de son bâtisseur Carlos Ghosn. Oubliant les tensions de ces derniers mois, les dirigeants des deux constructeurs ont annoncé leur intention de créer un nouveau conseil opérationnel de leur alliance.
Le gouvernement français n'a pas encore décidé de l'ampleur du désengagement de l'État de la société de gestion d'Aéroports de Paris, même si selon son porte-parole Benjamin Griveaux, l'État français pourrait conserver une participation d'environ 20%.
Et puis dans le même temps, on a appris hier soir que la justice administrative pourrait annuler la privatisation partielle de l'aéroport de Toulouse-Blagnac. Des étrangers aux gilets jaunes en passant par la lutte antiterroriste, le rapport annuel du Défenseur des droits publié ce matin pointe un renforcement de la répression en France et s'inquiète par ailleurs d'un repli des services publics qui sape selon lui la cohésion sociale. Enfin, l'invité de la rédaction, Olivia, dans une vingtaine de minutes, Jean-Jacques Hyest, ancien membre du Conseil constitutionnel qu'il a quitté hier. Et puis à 12h55, ce sera donc la grande table des idées.
Oui, de grandes marches sont attendues vendredi à l'initiative d'une jeunesse mondiale, samedi à l'initiative d'une centaine d'associations en France. Ce sera la marche du siècle. Mais d'abord, jeudi, un recours va être posé contre l'État français, pas pour inaction climatique. On en parle avec deux des signataires de la pétition L'Affaire du siècle, la directrice générale d'African Pattern Audrey Pulvar et la juriste Fanny Giansanto.
Merci et à tout à l'heure. Il n'y aura pas de cinquième mandat, il n'en a jamais été question pour moi. C'est donc par ces mots que le président Abdelaziz Bouteflika a annoncé hier soir dans une lettre son intention de renoncer à se présenter aux élections du 18 avril. Alors, outre que les centaines de milliers d'Algériens qui manifestaient depuis trois semaines contre le cinquième mandat de la honte apprécieront sans doute que le vieil homme, rongé par les séquelles d'un AVC, laisse ainsi entendre qu'il n'avait décidément rien compris. De nombreuses zones d'ombre persistent derrière la prétendue retraite politique de octogénaire. Au point que si cette annonce a certes provoqué des scènes de liesse hier soir dans les rues d'Alger, l'euphorie a vite cédé la place au doute. Non seulement Abdelaziz Bouteflika a décidé de reporter le scrutin sans qu'aucune nouvelle date n'ait été pour autant annoncée, mais il a également assuré rester en poste jusqu'à nouvel avis, sans préciser sur quelle base juridique, puisque la Constitution ne prévoit pas la prolongation de mandat. Enfin, preuve que le clan du pouvoir entend garder la main sur la transition. Le ministre de l'Intérieur a lui été promu hier Premier ministre, ou dit autrement, en prolongeant hier son quatrième mandat, Abdelaziz Bouteflika aura surtout tracé les enjeux de la poursuite des manifestations si la rue ne veut pas se faire voler sa révolution. Sans compter qu'outre les risques possibles de manipulation, une autre question de taille se pose. L'opposition, aujourd'hui dans un état d'extrême division, saura-t-elle bâtir une alternative crédible? Omar Waman a posé la question à Pierre Vermeren, spécialiste du Maghreb et professeur à l'université Paris-1-Sorbonne.
Bien sûr que pour l'instant, les partis d'opposition sont très affaiblis par des décennies d'opposition, par la répression. Dans un pays quand même assez autoritaire, il est normal que les partis d'opposition, on a connu ça en Tunisie, ne soient pas capables, clé en main, d'arriver au pouvoir. Donc c'est pas la question de toute manière. La question, c'est effectivement celle qui a été posée par le communiqué présidentiel hier, de réécrire des institutions dans un cadre consensuel et a priori démocratique. En tout cas, c'est ce que veulent la majorité apparemment des Algériens, enfin c'est certain même. Ce qui est encourageant et ce qui est surprenant et ce qui a surpris les observateurs, c'est cette cohérence du peuple dans la rue qui est apparue. Mais en même temps, on sait très bien qu'il y a des tendances idéologiques, politiques, les Algériens sont très politisés, qui divergent, et même qui divergent très fortement, hein, entre la fraction libérale, la fraction laïque, républicaine, la fraction islamiste, dans toute sa gamme en plus, hein, il y a des très conservateurs. Dans ces conditions, on est dans une grande inconnue, mais si la population pense qu'on est dans du dilatoire, qui vise finalement à prolonger l'état des choses existants, il y a bien sûr des risques que la population, à nouveau, d'une manière ou d'une autre, dise son opposition. Dans le processus de contestation, il y a le risque de la violence. Je pense que personne n'en veut, mais que si les choses pourrissaient, il surviendrait. Et c'est là, bien sûr, que se situe un risque.
Pierre Vermeuren, spécialiste du Maghreb et professeur à l'université Paris 1 Sorbonne, il répondait à Omar Waman. Au cinquième jour d'une panne géante sur la principale centrale hydroélectrique, les Vénézuéliens n'avaient sans doute pas besoin d'une métaphore aussi appuyée que celle d'une nation désormais plongée dans le noir pour mesurer l'étendue de la crise que traverse leur pays. Même si le courant a pu être rétabli à certains endroits, notamment dans la majeure partie de la capitale, la situation reste encore chaotique avec toutes les conséquences que cela entraîne, des patients détresse dans les hôpitaux privés de groupes électrogènes, les communications coupées, de même que toutes les transactions électroniques, les magasins fermés, les transports publics au ralenti et des aliments en décomposition. Sans compter qu'aux pannes de courant viennent s'ajouter l'hyperinflation, la pénurie des matières premières, sans oublier évidemment la crise politique depuis que le chef de l'opposition, Juan Guaido, s'est autoproclamé président par intérim. Hier, l'Assemblée nationale acquise justement à l'opposition a décrété l'état d'urgence, un décret symbolique mais qui illustre là encore la situation catastrophique dans laquelle se trouve le pays. Enfin ce mardi, Juan Guaido appellera de nouveau la population à manifester. C'est une correspondance à Caracas signée Benjamin Delisle.
Juan Guaido profite de cette immense panne d'électricité pour mobiliser un maximum de Vénézuéliens contre Nicolas Maduro. La situation est devenue invivable pour une grande partie du pays. Sans électricité, les Vénézuéliens n'ont plus d'eau, plus d'essence et n'ont plus de quoi s'acheter de nourriture car, à cause de l'inflation, il n'y a presque plus de liquide et tout s'achète par carte bancaire. La colère monte au Venezuela, mais il n'est pas sûr que la manifestation convoquée aujourd'hui par Juan Guaido soit très suivie, car cette panne géante paralyse aussi les réseaux internet et téléphonique, donc une grande partie de la population n'est pas au courant de cette convocation. Le gouvernement continue d'affirmer qu'il est victime d'un sabotage du réseau électrique orchestré par les États-Unis, une explication fermement rejetée par l'opposition qui accuse Nicolas Maduro de ne plus entretenir le réseau depuis des années. Une querelle politique qui importe peu aux Vénézuéliens après 4 jours de coupure. Tous ne souhaitent qu'une seule chose, que le réseau électrique soit rétabli. Dans de nombreuses villes du pays, les pillages se multiplient et plus cette panne se prolonge, plus le risque d'une explosion sociale se profile.
Et puis toujours s'agissant du Venezuela, j'ajoute que les États-Unis ont annoncé hier qu'ils entendaient retirer tout le personnel diplomatique encore présent dans leur ambassade à Caracas. Faut-il encore parler de moment de vérité au Royaume-Uni ? Seule certitude, à seulement 17 jours du Brexit, les députés britanniques doivent à nouveau se prononcer aujourd'hui sur l'accord de divorce négocié avec l'Union européenne, conclu fin novembre, mais qui il y a 2 mois déjà avait été massivement rejeté à la Chambre des communes. Alors pour tenter d'arracher d'ultimes concessions et sauver ce qui peut encore l'être, Theresa May s'est rendue hier soir à Strasbourg. Dans un communiqué commun, les deux parties ont annoncé un accord qui doit éviter le rétablissement d'une frontière dure entre l'Ulster et la République d'Irlande après le Brexit, tout en permettant à Londres de quitter l'union douanière d'ici 2020. Reste à savoir si cette annonce de dernière minute sera suffisante pour lever l'opposition des Brexiteurs, du Parti conservateur, mais aussi de la formation unioniste nord-irlandaise, pour qui le maintien dans le marché unique constitue un casus belli. Le chef de l'opposition, Jeremy Corbyn, a lui d'ores et déjà appelé les députés travaillistes à rejeter cet accord aujourd'hui. Enfin, ce matin, l'attorney général, qui conseille juridiquement le gouvernement, estime lui que le risque juridique du backstop reste inchangé, un avis qui a aussitôt fait décrocher la livre sterling. En Allemagne, s'est ouvert ce matin le procès d'un demandeur d'asile kurde irakien de 21 ans accusé du meurtre d'une adolescente allemande de 14 ans. C'était au mois de mai l'an dernier. Une affaire qui avait suscité un vif émoi partout dans le pays et nourri le débat sur la politique d'accueil des réfugiés. Son cas est aujourd'hui symptomatique des dysfonctionnements des institutions en charge de la gestion des demandes d'asile et des expulsions. Et puis, son cas constitue aussi l'un de ces faits divers dont le parti d'extrême droite AFD, lequel a fait une entrée tonitruante au Parlement, c'était en septembre 2017, s'est saisi pour dénoncer donc la politique d'accueil des migrants de la chancelière Angela Merkel, tout en surfant sur les inquiétudes de l'opinion face à l'immigration. Les dirigeants de Renault, Nissan et Mitsubishi ont présenté ce matin un front uni sous le regard du bâtisseur de l'alliance automobile franco-japonaise Carlos Ghosn, désormais persona non grata. Les trois constructeurs ont annoncé leur intention de créer un nouveau conseil opérationnel de leur alliance, un changement de gouvernance qui entend donner à ce montage inédit dans l'histoire de l'automobile un nouveau visage, en l'occurrence celui du nouveau président du groupe français Jean-Dominique Senard, lequel deviendra le président de ce nouveau conseil auquel siégeront également les directeurs généraux de Renault, Nissan et Mitsubishi. Les précisions à Yokohama de notre envoyé spécial Dominique André.
Une poignée de main entre Français et Japonais pour sceller la refondation complète de l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi. C'est l'image de la conférence de presse ce matin au siège de Nissan. C'est une journée spéciale, a lancé Jean-Dominique Senard, le PDG de Renault, qui annonce la création d'un conseil opérationnel qui va remplacer les structures de l'ère Gaune. Le conseil sera présidé par Jean-Dominique Senard avec à ses côtés les directeurs généraux des trois constructeurs. Le PDG de Renault tourne donc la page de l'époque Gaune.
Nous avons décidé de rassembler une nouvelle fois nos forces pour améliorer notre collaboration. Nous devons franchir une prochaine étape, une nouvelle étape, ce que nous appelons aujourd'hui un nouveau départ de l'Alliance. Nous voulons donner une nouvelle impulsion à l'organisation en la rendant plus efficace et en simplifiant la structure.
Côté japonais, c'est le soulagement. Hiroto Saikawa, le PDG de Nissan à l'origine de l'enquête qui a fait tomber Carlos Ghosn, souligne que la nouvelle équipe dirigeante fonctionnera au consensus sur la base de l'égalité. Carlos Ghosn fait savoir qu'il a besoin de temps pour réfléchir à ce qu'il va dire lors d'une conférence de presse prochaine, mais la date n'est pas encore fixée.
Après que la Chine et l'Indonésie ont demandé hier à leurs compagnies aériennes nationales de suspendre tous les vols de leur Boeing 737 MAX 8, la Corée du Sud est devenue ce matin le dernier pays en date à clouer au sol tous les appareils de ce type. Un peu plus tôt, Singapour et l'Australie avaient pris le parti de fermer leur espace aérien à tous les avions du constructeur américain du même modèle que celui de l'accident du vol d'Ethiopian Airlines qui a fait 157 morts dimanche dernier. Si la privatisation des aéroports constitue un mouvement de fond dans le monde, porté notamment par une croissance exceptionnelle de trafic aérien, mais aussi la mue des aéroports en de véritables villes aux performances financières attrayantes, cette tendance n'est évidemment pas exempte pour autant de polémiques, et plus encore lorsque les 10 aéroports se révèlent être en réalité des actifs profitables. Alors c'est le cas notamment en France avec Aéroports de Paris, lequel figure toujours au rang des cessions d'actifs publics prévues dans le projet de loi Pacte. Ce matin, Benjamin Griveaux a précisé qu'aucune décision n'avait encore été prise sur le maintien ou non de l'État au capital d'ADP. Anne-Laure Chouin, bonjour.
Bonjour Thomas.
Le porte-parole du gouvernement a toutefois laissé entendre Anne-Laure que sa participation pourrait se situer autour de 20%.
Oui, même si quel que soit le montant de la participation finale de l'État, ADP sera privatisé. Le ministre de l'Économie ne souhaite pas revenir là-dessus. Une privatisation rejetée par les sénateurs, mais demain la loi Pacte revient devant les députés qui, eux, devraient l'entériner. Tout indique pourtant que les garanties de l'État qui promet que cette privatisation d'Aéroports de Paris sera une opération bénéficiaire. Ces garanties-là ne garantissent pas grand-chose. En effet, les perspectives financières d'ADP, qui gère d'autres infrastructures aéroportuaires dans le monde, ces perspectives financières sont très bonnes. Le trafic est en hausse continue. La rentabilité du groupe est stable. Si l'État vend ADP, il faudra donc qu'il la vende à un prix supérieur à la somme des dividendes auxquels il va renoncer. Sauf qu'il est très difficile d'évaluer des dividendes futurs sur une longue période. Et ils sont nombreux les économistes qui pensent, au vu des précédentes privatisations et au vu de la façon dont l'État choisit habituellement ses acquéreurs, que les critères de sélection ne seront pas les bons. Tous pointent un risque de favoritisme et à terme une opération qui pourrait en outre faire augmenter les prix pour les usagers tout en dégradant la qualité des services rendus.
Alors cette initiative, on l'a dit, provoque des critiques. L'exemple des autoroutes en particulier montrant que l'État peine généralement à reprendre la main quand les prix augmentent. Et puis sur ce dossier, Anne-Laure, il existe en réalité un précédent, celui de la privatisation de l'aéroport de Toulouse-Blagnac, qualifié déjà d'échec par la Cour des comptes, c'était en novembre dernier, et dont on a appris hier soir que la justice administrative pourrait annuler la privatisation partielle.
Oui, le rapporteur public de la Cour administrative d'appel de Paris a recommandé d'annuler cette privatisation. Une privatisation qui avait vu l'actionnaire chinois acquérir 49,9% des parts qu'il souhaite d'ailleurs revendre aujourd'hui. Et justement, ce processus avait été entaché de graves irrégularités, notamment des critères de choix des acquéreurs très insuffisants, des garanties trop peu nombreuses. En gros, l'État avait regardé la valeur du porte-monnaie de l'actionnaire, pas celle de sa capacité en matière de gestion aéroportuaire, avec à la clé des soupçons de corruption, démontage via des paradis fiscaux, des désaccords sur le montant des dividendes, etc. Un exemple toulousain qui ne plaide évidemment pas en faveur d'une privatisation des aéroports parisiens.
Merci Anne-Laure Chouin. Épilogue en vue pour la controversée proposition de loi anti-casseurs. Le Parlement devrait adopter aujourd'hui le texte réclamé par des syndicats policiers, mais critiqué sur certains aspects par des magistrats et des avocats. Les mesures prévues ont été amendées à l'Assemblée pour un meilleur équilibre entre maintien de l'ordre et liberté publique, mais sans convaincre la gauche qui pointe une dérive autoritaire, ni d'ailleurs tous les députés de la majorité. Et puis l'histoire n'est pas encore totalement terminée puisque des recours au Conseil constitutionnel sont en préparation, y compris de la part d'Emmanuel Macron, ce qui pourrait conduire à l'annulation de certaines mesures. C'est un tableau noir de la situation en France qui ressort du rapport annuel publié ce matin par le défenseur des droits Jacques Toubon, l'ex-ministre de droite qui dirige cette institution indépendante depuis presque 5 ans maintenant, estime que ses avertissements répétés sur le recul des services publics, la hausse des inégalités et le maintien de l'ordre se traduisent aujourd'hui dans la crise des gilets jaunes. Jacques Toubon qui juge par ailleurs que s'est implantée en France une politique de renforcement de la sécurité et de la répression. Hakim Kasmi, bonjour.
Bonjour Thomas Cluzel.
Alors dans son rapport, le défenseur des droits dénonce notamment des problèmes de respect des droits fondamentaux dans la manière dont se fait le maintien de l'ordre, et c'est ainsi qu'il préconise par exemple, Hakim, l'interdiction des fameux LBD, ces lanceurs de balles de défense qui ont déjà fait de très nombreux blessés depuis le début du mouvement des gilets jaunes.
Et oui, depuis le début du mouvement des gilets jaunes, le défenseur des droits a reçu pas moins de 70 réclamations, dont 30 concernent l'usage des affis, armes de force intermédiaires, à l'origine de graves blessures, allant jusqu'à l'amputation, voire à la perte d'un œil. Jacques Toubon, qui rappelle avoir déjà tiré la sonnette d'alarme sur ses méthodes d'intervention depuis des années, notamment après la mort de Rémi Fraisse sur le barrage de Sivens en octobre 2014, et d'expliquer qu'elles doivent être utilisées dans des cas bien précis, uniquement par les unités spécialisées, type gendarmes mobiles ou CRS.
Ils ont sûrement leur utilité dans les interventions individuelles, par exemple celles que font des policiers, des brigades anti-criminalité, dans leurs opérations d'interpellation. C'est sûrement des affis, comme on dit, qui ont leur utilité. En revanche, dans le cadre des opérations de maintien de l'ordre, dans le contexte des opérations de maintien de l'ordre, il y a dans l'utilisation de ces affis une dangerosité. Et nous l'avons vu parce que nous avons des dizaines de cas depuis des années, ça ne remonte pas à quelques semaines. Et nous avons dit, cela mérite que on fasse, nous l'avions dit sur le Flashball Super Pro, un moratoire et que l'on regarde s'il ne faudrait pas effectivement suspendre la dotation en LBD 4046 dans le cadre du maintien de l'ordre.
Depuis le début du mouvement des Gilets jaunes, l'IGPN, la police des polices, a ouvert 170 dossiers pour des enquêtes suite à des violences policières qui seraient intervenues durant les manifestations.
Merci Hakim Kasmi. L'invité de la rédaction aujourd'hui, Jean-Jacques Hyest, ancien membre du Conseil constitutionnel. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Conseil constitutionnel que vous avez quitté hier. Et puis à mes côtés pour vous interroger, Stéphane Robert, chef du service politique de la rédaction. Bonjour Stéphane.
Bonjour.
Une première question, monsieur Hyest. J'évoquais à l'instant la loi anti-casseurs qui devrait a priori être adoptée aujourd'hui. Pourtant, hier, Emmanuel Macron a lui-même annoncé qu'il allait saisir le Conseil constitutionnel pour en vérifier la légalité. N'est-il pas un peu étrange de faire voter un texte pour en vérifier ensuite la constitutionnalité ?
Il y a un exemple précédent, c'était la loi sur le renseignement. Le président de la République de l'époque, François Hollande, avait saisi le Conseil constitutionnel à blanc, d'ailleurs sans donner d'explication sur... Alors c'est pas la légalité, c'est la constitutionnalité. Et bien entendu, il y a eu des débats quand même extrêmement importants au Parlement sur ce sujet. Et notamment sur l'interdiction de manifester... prononcé par un représentant de l'autorité administrative.
À savoir le préfet. Et du coup, pour vous, est-ce que la question se pose de la constitution ?
Bah écoutez, puisque mes collègues ou ceux qui m'ont remplacé sont saisis, je ne vais pas répondre à leur place.
Qu'est-ce que... Alors, vous avez quitté hier le Conseil constitutionnel.
Oui. Oui.
Comment vous travaillez ? Qu'est-ce que vous regardez dans une loi, notamment par exemple sur est-ce que c'est compliqué de vérifier la constitutionnalité d'une loi ?
Alors, bien entendu, nous ne traitons que de ce dont nous sommes saisis, hein, soit par les parlementaires, soit par l'intermédiaire de la question prioritaire de constitutionnalité qui a vraiment bouleversé le fonctionnement du Conseil et qui en fait maintenant une véritable juridiction. Avant, on pouvait douter, mais là, c'est vraiment cela. Et donc, on examine tout en fonction de notre jurisprudence, bien sûr, puisqu'il y a une jurisprudence qui est de plus en plus, d'ailleurs, complète. Et puis, on regarde si les textes sont conformes non seulement à la Constitution. Il peut y avoir des irrégularités, mais c'est quand même assez rare dans la procédure législative. Mais tant on censure quand même, notamment les cavaliers budgétaires, etc. Mais surtout, on examine si le texte de la loi est conforme aux droits et libertés que la Constitution garantit. Et ça peut être la liberté, vous voyez, d'expression. Ça peut être la liberté de bien sûr, la liberté de la presse, par exemple. Bon, etc., etc. Et donc, la liberté d'aller et venir, par exemple, aussi. Bon, donc, toutes ces questions qui nous sont posées, il y a quand même beaucoup de questions qui concernent soit l'égalité des citoyens, soit les libertés publiques.
Et ça vous prend du temps? C'est compliqué, ça?
Écoutez, je pense que chaque dossier... D'abord, chaque membre du Conseil a des rapports régulièrement. On essaie d'assurer... Enfin, on assure l'égalité entre les membres, entre les 8 membres, en dehors du président qui ne prend pas de rapport. Mais comme on a à peu près 100 affaires par an, vous voyez que ça, c'est une lourde charge de travail, avec quand même des équipes extrêmement qualifiées, mais restreintes.
C'est-à-dire ?
Ben, en fait, on a un service juridique qui est de très très bonne qualité, mais et un service de documentation. Vous savez, au Conseil constitutionnel, tout compris, il y a 60 personnes. À la cour de Karlsruhe, la cour allemande, il doit y avoir 1500 personnes. Voilà.
La réforme constitutionnelle de 2008 a instauré la question prioritaire de constitutionnalité. C'est devenu aujourd'hui votre principale la principale question sur laquelle vous vous penchez au Conseil constitutionnel.
Ah oui, oui, puisque alors c'est forcément des questions plus limitées, parce que c'est sur vraiment une question précise à l'occasion d'un litige, moins qu'une loi de finances, par exemple, où il y a quand même beaucoup d'aspects qu'il faut traiter, et d'ailleurs c'est très compliqué, puisqu'on a très peu de temps. Mais c'est quand même l'essentiel de notre activité. Comme je le disais, c'est que on est reconnu comme juge, mais pas comme Cour suprême. Parce que les Cours suprêmes, c'est Cour de cassation, Conseil d'État. Nous, on traite uniquement de la constitutionnalité des lois, et d'ailleurs pas de la conventionnalité. Alors c'est un peu difficile à expliquer, parce que les conventions internationales doivent être aussi respectées par les lois votées.
Est-ce qu'elles sont légitimes en général,
globalement, on peut dire, enfin si on fait une analyse à peu près, c'est un tiers de censure et deux tiers d'approbation de la loi.
Alain Juppé est entré aujourd'hui au Conseil constitutionnel alors que vous vous en sortez. C'est la première fois qu'un homme politique qui a été condamné par le passé, même s'il a purgé sa peine, entre au Conseil constitutionnel. Est-ce que, selon vous, ça fait débat ou pas?
Écoutez, ça n'a pas fait de débat. Je pense que, en plus, Alain Juppé a quand même une expérience politique extrêmement riche. Il y avait déjà il n'avait pas été condamné, un Premier ministre qui a apporté, je crois, beaucoup à l'institution, c'était Lionel Jospin, et je crois qu'il apportera beaucoup. Vous savez, les Français, je pense, ont oublié la condamnation d'Alain Juppé parce qu'ils en connaissent très bien les raisons.
Est-ce que vous avez ressenti pendant l'exercice de votre mandat cette montée, cette défiance vis-à-vis des responsables politiques?
Alors, d'abord, cette défiance n'est pas nouvelle, parce que vous savez combien de fois, et même il y a eu des périodes extrêmement graves, hein, 34, etc., on pourrait citer tout un tas de choses. Alors ce qui me paraît, c'est que l'affaiblissement des partis politiques, l'affaiblissement des relais d'opinion, fait que aujourd'hui on est dans une situation où les parlementaires notamment ne sont plus reconnus comme ils devraient l'être.
Vous avez le sentiment d'avoir été dans une tour d'ivoire. Est-ce qu'on est dans une tour d'ivoire quand
on non, conseille ? Moi, c'est peut-être pour ça que j'ai fait une longue carrière politique. C'est que moi, j'ai toujours vécu comme mes concitoyens.
Et on terminera là-dessus. Merci Jean-Jacques Hyest, ancien membre, je le rappelle, du Conseil constitutionnel d'avoir été en direct avec nous. Et merci également à Stéphane Robert. On termine avec un mot du temps pour aujourd'hui. Un ciel franchement couvert sur la majeure partie du pays, accompagné d'un passage pluvieux assez intense. Seules les régions méditerranéennes conserveront un temps calme quant aux températures. Elles seront généralement comprises cet après-midi entre 10 et 20 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par François-Charles Domergue. Et à 18h, vous avez rendez-vous avec Aurélie Kiefer pour le prochain journal de la rédaction.